Scene one, Apple, take two.
Cannes, c'est le cinéma et vive le cinéma.
Mais c'est miraculeux en fait que les gens viennent quand même dans les salles de cinéma, non?
Mais c'est à Cannes, parce que Cannes, c'est très très important pour le futur du cinéma.
Plus je grandis, plus je réalise qu'il est difficile d'être compris.
Pour moi, l'esprit le plus important, c'est le désir des jeunes gens de protéger la liberté d'être soi-même.
Vive le cinéma!
La grande table spéciale Cannes, deuxième partie de ce mardi autour de 13h20, notre table ronde des critiques avec Michel Simon et Paolo Merighetti du Corriere della Sera. Aujourd'hui, ce monde qui nous entoure entre nature et culture avec le film du mystique Terrence Malick ou le refus d'un paysan autrichien de servir Hitler, une désobéissance qui lui coûtera la vie, exécutée par les nazis en 43 avant d'être béatifié un demi-siècle plus tard, car une vie cachée s'inspire d'une histoire vraie, son réalisateur, lui, jouant à cache-cache avec les journalistes, c'est son premier rôle, l'Allemand Auguste Diehl, qu'Henri Leblanc a rencontré, à écouter dans une quinzaine de minutes. Mais d'abord, la métaphysique des contes avec le premier long métrage d'animation du réalisateur et bédéiste italien Lorenzo Mattotti, auteur de Feu, de Hansel et Gretel ou encore de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sorti en 2002 chez Casterman. La fameuse invasion des ours en Sicile, c'est le titre de ce film, adapté du livre de Dino Buzzati, un classique de la littérature jeunesse en Italie, produit en France par Prima Linea, présenté aujourd'hui dans la section Un certain regard. Les ours vivent en paix dans leur montagne de Sicile, loin des hommes, jusqu'à ce que le fils du roi Léonce soit enlevé par des chasseurs. Dévasté par sa disparition, il part à sa recherche avec le peuple des ours, son peuple, jusque dans la vallée, au royaume des hommes. Bande-annonce.
L'ours est une créature de la nature. Il y a des instincts que nous ne devons pas perdre.
Oui, mais l'eau est quand même un peu fraîche. Là.
Je suis un animal, hein?
C'est ça. Envoyez! J'ai conquis la Sicile pour te retrouver. Et regarde-toi, tu voudrais être un homme. Tu n'es même pas un ours.
Bonjour Lorenzo Mattotti.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà présent à Cannes en 2000 avec cette affiche du festival que vous aviez réalisée, où une sorte d'arlequin sortait de l'écran, caméra à la main. Vous êtes un auteur, illustrateur, cinéphile. Mais en quel sens? Est-ce que le cinéma a toujours influencé votre dessin?
Oui, le cinéma, moi j'ai grandi avec le cinéma parce que j'avais la possibilité d'aller dans les salles de cinéma gratuitement parce qu'on avait une carte. Et alors j'ai regardé tous, j'ai eu la chance de pouvoir voir d'un côté Pasolini, de l'autre Sergio Leone. C'était omnivore du cinéma.
Il y a d'ailleurs un peu de Fellini dans cette fameuse invasion des ours en Sicile, dans la grandiloquence de certains personnages, comme le roi des hommes, par des figures un peu archétypales, comme on retrouve chez le magicien. Vous vous êtes laissé porter aussi par tout ce cinéma italien?
Évidemment, je me suis nourri de Fellini, de Pasolini, de tous les grands, de Monicelli. Il y a un moment que je pensais de faire les jeux de... des dialectes, tout ça, un peu comme Brancaleone, c'est la commedia dell'art, Fellini, évidemment, c'est dedans, la capacité. Il y a aussi dans Gédéon et Almerina, Petite.
Le troubadour et petit, son accompagnatrice, qui font l'ouverture du film et qui nous racontent ce conte,
oui,
et ce récit. Hein.
C'est ça.
Il y a quoi? Il y a quelque chose de la commedia dell'arte aussi, ce côté,
oui,
un peu.
Oui, il y a
le
bonheur de raconter, il y a les cantastories siciliens, ces troubadours qui marchait d'un village à l'autre et racontait des histoires de la chronique ou sinon des anciens aventures de Roland Furieux ou d'autres choses.
Ce livre de Dino Buzzati est réputé très difficile à adapter. D'ailleurs, lui ne le souhaitait pas. Il ne voulait pas que son livre soit mis en image. Comment avez-vous réussi à vous atteler à ce projet? Qui vous en a donné l'autorisation et comment avez-vous convaincu?
J'ai dû rencontrer madame Almerina Buzzati,
la veuve de Dino
Buzzati, et je lui fais voir mon travail, mon amour pour Buzzati, mes références. J'avais fait un court-métrage dans Peur du Noir, qui c'était presque plus buzzatien que Buzzati lui-même. Et bon, elle est tombée sous le charme de mes histoires, de mon dessin, et elle a accepté. Elle a vu que j'essayais de respecter le plus possible le monde de Buzzati, et nous a donné, moi et la productrice, nous a donné la possibilité de le faire.
Et alors, à force de travailler dessus, de l'adapter, est-ce que vous avez été fidèle? Il vous a quand même fallu ajouter, inventer certaines séquences pour mettre en récit, mettre en image aussi cette histoire. Hein.
C'était très compliqué parce qu'en fait, je voulais respecter tellement Buzzati que j'avais peur d'élever chaque mot, chaque phrase dedans. Mais à peu, la loi du cinéma, il m'a obligé à peu à donner de plus espace au langage cinématographique. Et je crois que c'est un très bon équilibre. On a essayé au maximum de garder les textes, la magie, l'envie de raconter des Buzzati, et de l'autre, les rythmes, la magie du cinéma, la spectacularité des images, les rythmes de la narration, de toute façon, la structure de la roman, elle est presque similaire. On avait un grand problème, il n'y avait même pas un personnage féminin dans l'histoire.
Ça, vous l'avez inventé?
Oui, on l'a inventé avec Almerina. Et on est très contente de ça. Et aussi des passages qui ont une logique littéraire dans les livres. Et nous, on devait chercher une logique cinématographique.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage féminin chez les hommes, mais pas non plus chez les ours.
La mère est absente, il n'y a pas vraiment de protagonistes.
Mais la relation est entre le père et le fils. C'est là
on a souligné beaucoup cette relation.
Respecter Buzzati, comment y parvient-on? Si c'est pas exactement dans le fil narratif, dans les dialogues que lui avait pu utiliser ou imaginer, est-ce que c'est en respectant un état d'esprit, une philosophie, une veine, peut-être celle du réalisme magique qui l'a beaucoup inspiré lui, ce style aussi un peu baroque, surréaliste, qui collait à cet homme écrivain journaliste?
Oui, baroque, pas tellement, je crois, plutôt métaphysique, symboliste. Moi, j'ai toujours été lié à son dessin, à ses peintures. Il faut se souvenir qu'il a fait un poème en bande dessinée, une vraie bande dessinée, graphic novel, Orphée et à l'enfer, traduit en français, et que c'était une façon de raconter en bande dessinée complètement originale, et m'a beaucoup influencé de ma jeunesse. Et l'esprit de ses dessins, de ses visions, j'ai essayé de les mettre. Et en fait, c'est un film qui c'est continuellement un dialogue entre moi et Buzzati. Je l'ai vu comme si Buzzati c'était mon co-auteur.
Vous l'avez jamais rencontré?
Non, jamais. Il est mort dans les
années 70.
Ouais,
hein.
Ouais.
Vous auriez aimé?
Je sais pas, moi j'étais très timide, j'ai toujours eu l'angoisse de rencontrer mes mythes et mes amours.
Ce film, La fameuse invasion des ours en Sicile, dont le titre est un poil remanié, Lorenzo Mattotti, est-ce que vous diriez que c'est d'abord une fable sur l'altérité?
Oui, c'est une fable sur les rencontres des cultures, c'est une fable sur la perte du pensée vierge en contact avec les hommes, c'est le rapport entre la nature et les hommes, c'est une histoire complexe qui parle de la complexité de la vie.
Et c'est aussi
des situations qu'on se retrouve, on croit qu'on est méchant, après on devient bon, on croit d'être bon et la vie nous amène à être méchant. C'est très très riche, je dois dire.
Oui, c'est aussi un film sur qui questionne la nature humaine et qui questionne l'instinct animal à travers cette rencontre de ce peuple des ours et ce peuple des hommes. C'est aussi un conte sur la guerre où un peuple, celui des ours, va envahir, avec des bonnes intentions au départ, un autre, celui des hommes, gouverné par un roi tyran, plutôt autoritaire. Est-ce qu'il faut en revenir au contexte d'après-guerre dans lequel Buzzati a écrit cette histoire pour comprendre?
Je ne crois pas qu'il faut se mettre à penser à la période de Buzzati. Moi, quand je l'ai lu, je pensais pas à ça. Je pensais à d'autres choses. C'est pour ça que on peut très bien imaginer d'autres situations très très actuelles qu'on se retrouve et qui sont dans l'histoire.
Quelle situation actuelle, Lorenzo Battotti?
Bah, tous les rapports avec les invasions des autres, la peur.
Et vous mettez des guillemets avec vos mains, mais ça ne s'entend pas à la radio, donc je le précise.
Par exemple, l'effet de voir un père qui voit son fils en vivant dans notre situation, qu'il perd ses origines, sa culture, ses racines, et il n'y a plus de dialogue entre ça. Qu'on a peur de ça, qu'on perde tout ça. Moi, je l'ai vécu avec mes enfants. Ils sont grandis en France, on venait de l'Italie. Et à un certain moment, tu vois qu'ils parlent notre langue, notre chose. Ça, c'est aussi un thème très, 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 très actuel.
Des couleurs très vives pour ce film d'animation, Lorenzo Mattotti, une nature omniprésente, massive, sculpturale, des formes géométriques pour la nature, tout comme pour les personnages, avec ces ours à la figure taillée dans le bois ou dans la pierre presque. On est loin de la rondeur traditionnelle animale des films d'animation chez Disney ou Pixar. Mmh. Vous avez travaillé ce style qui est d'abord aussi le vôtre, mais de quel courant esthétique vous vous êtes inspiré pour le dessin de ce film?
Plusieurs. Moi, je voulais que les films devaient trouver sa forme, son esthétique. Il y avait beaucoup de références à la peinture de Buzzati. Il y avait ma capacité, mon expérience de travailler avec les couleurs, avec l'espace, avec les profondeurs. Et il y a eu tous les talents de mes décorateurs, tous les talents des animateurs. Et tous ensemble, on a fait une sorte de cathédrale avec sa forme. Moi, j'ai essayé d'être un peu l'ingénieur.
L'architecte,
mais avec tous les talents précis de tous mes collaborateurs. Et les films, je crois qu'il a sa forme à eux. Pour cette histoire.
Et vous travaillez aussi avec les échelles de grandeur. L'homme restera toujours tout petit dans cette nature immense.
Oui. Ça, c'est une chose que je voulais garder et qui venait directement aussi dans les dessins des Buzzati.
C'est un très très beau film que vous avez réalisé, Lorenzo Mattotti. J'espère qu'on aura le plaisir d'en reparler autour de cette grande table avec Thomas Bidouguin et Jean-Luc Fromental et toute une équipe de production. En attendant, la fameuse invasion des ours en Sicile vient d'être présentée dans la section Un certain regard à Cannes et sera aussi présentée au Festival d'Annecy en juin prochain avant sa sortie en salle. Merci beaucoup à vous d'avoir
été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Where are the kids?
Inside.
Car le bien croissant du monde dépend en partie d'actes non historiques. Et si les choses ne vont pas pour vous et moi aussi mal qu'elles auraient pu aller, nous en sommes redevables en partie à ceux qui ont vécu fidèlement une vie cachée et qui reposent dans des tombes délaissées.
On aime ou on n'aime pas, une ode à la nature et à la foi. Terrence Malick est de retour à Cannes 8 ans après sa Palme d'Or pour The Tree of Life avec Une vie cachée, son nouveau film pour lequel il s'est inspiré de la vie de Franz Jägerstätter, un paysan autrichien en prise avec le nazisme, interprété ici par l'acteur allemand Auguste Diehl, qu'on vient d'entendre et qu'on avait connu à l'écran sous l'uniforme nazi, notamment pour Inglourious Basterds de Tarantino. Voilà, là il a changé de camp cette fois-ci, Henri Leblanc. Cet acteur,
ah oui, l'acteur caméléon. Allemand. C'est un acteur caméléon, animal, très habité. Il a une filmographie très très éclectique, comme vous le disiez, on l'a découvert surtout sous les traits de ce personnage nazi assez pervers dans Inglourious Basterds de Tarantino. On l'a ensuite vu dans la peau de Karl Marx chez Raoul Peck. Il a aussi tourné, excusez du peu, avec Robert Zemeckis, Thomas Vinterberg, ou dans le très beau polar Diamant Noir, il y a quelques années, le film d'Arthur Harari. À chaque fois des rôles très engagés, souvent physiques, où il a une présence quasi animale. Cet entretien avec Auguste Diehl a été une sorte de hors-temps canois, un moment où on oublie les montées des marches et où on se pose des questions existentielles. Alors vous me direz, Olivia, normal quand on parle du cinéma de Terrence Malick, mais le tournage chez Malick est-il aussi mystique que le sujet du film? Auguste Diehl.
Non, quand je vois le film aujourd'hui, j'ai effectivement ce sentiment de grande spiritualité, mais pendant le tournage, c'était beaucoup plus simple, c'était tout simplement le travail de la ferme, et ce que Malick cherchait, c'était la simplicité, il ne parlait pas en disant chercher le mystère, chercher la spiritualité. Ce qui l'intéressait, c'était quel est le travail des champs? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est d'aller à la rivière? Que signifie la forêt, la montagne? Et ça, tout ensemble, a créé quelque chose de spirituel, peut-être, mais en tout cas, Malick ne venait jamais vers vous en disant, allez, soyez spirituel, trouvez quelque chose de spirituel. C'était beaucoup plus simple avec lui.
Vous connaissiez l'existence de Franz Jägerstätter avant? Qui était-il?
Non, je ne savais rien sur lui. C'est la première fois que j'entendais parler de lui. Il n'est pas du tout connu en Allemagne. Il est un peu plus connu, je crois, en Autriche. Je crois qu'il y a un film qui a été fait sur lui. Mais il n'est pas célèbre. Je crois que c'est pas quelqu'un qui se mettait en avant, c'est pas quelqu'un qui s'est battu ou qui a sauvé des gens comme d'autres héros de la Deuxième Guerre mondiale. C'est juste quelqu'un qui a dit non. Je pense qu'il est beaucoup plus connu aux États-Unis. Je crois que même Mohamed Ali l'avait cité une fois, si je me souviens bien. Donc c'est amusant quelquefois de voir que des gens sont bien plus connus à l'extérieur de leur pays.
Est-ce que pour vous, les vrais héros, ce ne sont pas ceux qu'on ne voit pas?
I think the word hero.
Je pense que le mot héros est un mot avec lequel je me sens assez mal à l'aise. Mais bien sûr, il y a des héros. Mais je crois qu'au moment où ces gens-là font les choses, ils ne sont pas conscients de ça. Et je crois que les gens autour d'eux ne le sont pas davantage. C'est quelque chose qui est un qualificatif qu'on leur applique plus tard. Je sais, par exemple, que Franz Jägerstätter s'est beaucoup battu, même des décennies après la Deuxième Guerre mondiale, les gens de son village disaient qu'il était dingue. Et ce n'est que très très tard, en fait, que l'Église a changé d'avis et s'est dit, voilà, c'est l'un des nôtres. Mais à l'époque, on lui disait, mais vous êtes sur la mauvaise voie, sur le mauvais chemin. Donc, je pense que le qualificatif de héros est quelque chose qui vous est appliqué de manière posthume.
Oui, c'est vrai qu'il a été béatifié en 2007 par le pape Benoît XVI, ce que ne mentionne absolument pas le film. Pourtant, il y a beaucoup de présence religieuse dans le film, avec les églises et les discussions avec l'évêque et le prêtre. C'était un choix, à votre avis, de Terrence Malick de ne pas faire mention, à la fin du film, du statut un peu, entre guillemets, de réhabilitation de Franz?
Je ne crois pas que Terrence Malick ait essayé de faire quelque chose qui réhabilite quelqu'un. Hein. Je crois que ce qu'il cherchait, c'était davantage la simplicité de quelqu'un qui pouvait nous émouvoir. Je crois que la première chose, c'est que Terrence Malick, il a été touché par cette histoire-là. Évidemment, il y a cette partie religieuse très importante, hein, mais la foi de Franz était très simple. Il aimait l'Église, il aimait l'atmosphère de l'Église, et d'ailleurs, il la nettoyait, il aidait au service, et il avait le sentiment que Dieu était très simple, sa foi était très simple, très terre à terre. Et comme un paysan, il voyait la graines poussées, puis le maïs se former, et comment on pouvait faire du pain avec ensuite. Et tout ça, c'était ce qui faisait venir sa foi. Hein. On a perdu ce genre de foi. C'est la chose la plus simple, en fait, qui soit. Et en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu Franz.
Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Franz est intimement persuadé de la justesse de son choix. Il ne veut pas combattre. C'est quelqu'un qui dit non, et en même temps, il n'y a aucune violence dans sa démarche. Il n'essaie pas d'imposer son choix. Alors qu'à l'opposé, dans le village, notamment le maire, fait quasiment du prosélytisme nazi. Il veut qu'il aille au front. Qu'est-ce que ça dit pour vous de l'engagement de Franz, cette douceur, cette absence de violence ?
It's remarkable. It is,
c'est remarquable, je crois. Alors que, on le sait d'ailleurs, hein, c'est quelqu'un qui aimait se battre plutôt, c'est quelqu'un qui allait sur sa moto, qui aimait boire. Il était comme ça au moment de la Première Guerre mondiale. Mais je crois que c'est un cheminement qui s'est fait petit à petit pour lui. Hein. Il disait, voilà, je l'ai vu sur cette moto comme un enfant et je l'ai vu à un moment donné, en fait, hein, c'est quand il a eu son entraînement militaire, il a fallu qu'il traverse le corps de quelqu'un avec une baïonnette, et je crois que c'est la première fois qu'il s'est dit non, je peux pas, je ne vais pas faire ça, je suis désolé, mais je ne le ferai pas. Et après, il s'est dit, ça va être le conflit de ma vie, et il faut que je prenne une décision qui risque de m'amener à la mort, et à ce moment-là, il s'est tourné vers Dieu, hein, pour lui demander s'il avait raison ou pas, et personne n'a répondu. Ensuite, il est allé à l'église, il s'est adressé à l'évêque, hein, qui lui a dit, comme tout le monde, vous êtes sur le mauvais chemin. Donc, il était de plus en plus seul, et la seule personne qui était avec lui, c'était sa femme, hein, pendant tout ce temps-là. Et c'est pour ça le film, c'est également donc une histoire d'amour, parce que même si elle ne le comprenait pas, elle disait, peu importe, je suis avec lui.
And also her prayers, like, et
ses prières adressées à Dieu disaient, mais protégez-le. Hein, elle disait à Dieu, mais pourquoi n'essayez-vous pas de changer ses opinions ? Elle disait des choses très simplement quand on lui disait, mais laisse-le. Elle disait, mais je ne peux pas faire ça, sinon il va être absolument tout seul. Et c'est quelque chose qui est totalement remarquable. Et je crois que encore aujourd'hui, lorsque j'en parle, ça m'émeut profondément. Et ça me fait trembler parce que je trouve que c'est quelque chose de très très beau. Je crois que c'est très difficile quand il y a un système et que tout le monde prend le train en marche et c'est très difficile de dire non. Hein. Et si on doit trouver une relation avec aujourd'hui, je crois qu'on a de plus en plus une disparition de ces personnalités-là puisque nous, on dit toujours oui, on se dit allez, on y va, on grimpe dans ce train en marche et il faut que vous imaginez, en fait, hein, 10 personnes dans une pièce qui disent « Allez, on y va !» et une personne qui dit « Ah non !» Et tout le monde va se tourner vers lui en disant « Mais pourquoi tu veux pas y aller ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ?» Et c'est des gens qui paraissent si peu attirants, qui subissent tellement de pression, tellement de stress, mais c'est tellement nécessaire d'avoir des personnalités comme ça. Hein. Et je crois que ça peut se produire avec des toutes petites choses, c'est-à-dire même dans ma vie, par exemple, ordinaire, je connais des gens, alors bien sûr, c'est très différent, mais il y a des gens qui disent, par exemple, non, je n'aurai pas de téléphone mobile, et je vois bien la réaction de la société en général. Les gens disent, mais enfin, comment ça? Ça va pas? T'as pas de téléphone? Je ne peux pas te contacter? C'est presque une attaque, en fait, hein. Et il semble que les gens disent juste non, ils sont très obstinés. Peut-être que cette obstination, c'est une très bonne chose, et j'aimerais que beaucoup de gens soient comme ça.
Merci Auguste Dill.
Merci à vous.
Et merci à Henri Leblanc qui a rencontré Auguste Dill et réalisé cet entretien. France Culture, il est 13h20 et c'est pile l'heure de notre table ronde des critiques.
Et finalement ça, notre travail pendant 12 jours, c'est aimer les films et les défendre.
France Culture.
Prix d'interprétation masculine à Jean-Yann.
La grande table.
Je lui dirai.
Olivia Gesbert.
La table ronde des critiques ici en direct de Cannes avec son invité régulier Michel Simon, France Culture Positive. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Et à vos côtés aujourd'hui pour débattre, discuter, le journaliste critique de cinéma italien Paolo Mereghetti du Corriere della Sera. Bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec un film qui a été présenté hier en sélection officielle à Cannes. C'est le retour des frères Dardenne avec le jeune Ahmed. Avant d'écouter la bande-annonce, un mot, Michel Simon, pour ouvrir cette discussion.
Ce film, c'est pour moi un retour des frères Dardenne à ce qu'ils ont de plus pur, de plus radical. C'est-à-dire qu'on avait vu récemment le précédent film qui était un peu décevant, pas vraiment convaincant. Ici, on a un peu le pendant de Rosetta, l'histoire d'un jeune islamiste. Alors la différence, c'est que Rosetta, c'était quelqu'un qui disait non à la société, un peu pour reprendre le film de Terrence Malick, alors que ici c'est un garçon qui dit oui aux terroristes, c'est-à-dire qui se trouve embrigadé dans une action terroriste. Et je trouve que c'était un sujet extrêmement délicat, extrêmement difficile à traiter. Il aurait pu tomber dans pas mal de pièges. Et je trouve que le film, de ce point de vue-là, est tout à fait exemplaire. À la fois le rôle des imams qui est montré de façon négative, et en même temps ce garçon qui est un bloc mystérieux. C'est pas un film psychologique. C'est-à-dire qu'effectivement, on reste un peu extérieur à ce personnage, mais néanmoins, c'est une boule de feu qui est en mouvement, comme les Dardenne savent très bien le faire. Et c'est ça aussi qui fait penser à Rosetta, de suivre l'itinéraire d'une sorte de boule d'acier, qui est ce jeune garçon qui va suivre une démarche totalement radicale.
Voilà, ne changera-t-il pas le jeune Ahmed présenté hier à Cannes des frères Dardenne, bande-annonce.
Ça, il risque de vous le donner à l'examen. Essayez de faire celui-là.
A moins B fois A plus B égale A carré. Ah, c'est mon frère, j'y vais.
Ahmed ? Ahmed !
Pourquoi tu vas là-bas ?
Il y a un mois, t'étais tout le temps à jouer à la PlayStation avec Karim. T'as enlevé tous les posters de ta chambre.
Tu serais d'accord qu'on discute du Coran une fois par semaine, tous les deux ?
Je peux pas lire le Coran avec une femme.
Tu préfères le lire avec un imam qui est un menteur ?
C'est pas un menteur.
Si, c'est...
Non.
C'est un menteur, Ahmed.
Le mieux, c'est que je te conduise tout de suite à la police pour pas qu'ils puissent dire que c'est la mosquée qui t'a caché.
Ils vont m'enfermer longtemps.
Non, t'es trop jeune, peut-être un mois ou deux.
Un film radical sur la radicalisation pour vous également, Paolo Mereghetti.
Oui, mais je suis un peu moins d'accord. Je suis pas tellement d'accord avec Michel Simon parce qu'il me semble que ce film, c'est une espèce de pari extrême. La méthode de cinéma des frères Dardenne qui essaye de entrer dans la tête, dans le cœur de quelqu'un qui ne veut pas parler avec personne. Il est très convaincu de ses idées. Trop, c'est plagiato, je ne sais pas comment on dit en français, par l'imam qui lui a donné cette idée qu'il ne veut pas mettre en discussion. Et le cinéma des frères Dardenne était toujours un cinéma qui essayait de suivre les personnages de très voisins pour essayer de retrouver les moments de crise, les moments les imperfections et ouvrir comme ça un peu de capacité d'entrer dans cette vie qui était des vies marginales. Ça, il n'y arrive pas. Le film essaye jusqu'à la fin de nous expliquer pourquoi il se il agit comme ça et il y a à la fin un moment qui
Ne dites pas la fin.
Mais il y a à la fin un moment où tout change, mais c'est comme si le cinéma de cette méthode de Fred Ardenne n'arrive pas, ils ont fait un pari trop haut et ils n'arrivent pas à le gagner jusqu'à la fin. J'ai eu cette sensation en voyant le film.
Voilà, outre le thème du film, ce qui occupe ce jeune homme, le jeune Ahmed de 13 ans, à peine adolescent, c'est aussi un film sur l'adolescence, hein, sur ses certitudes et ses doutes, cette quête identitaire de ce jeune homme. Et ça, c'est assez bien raconté.
Oui, ouais. absolument, oui.
On va partir parler d'un autre film avec vous, direction cette fois les États-Unis, avec Frankie et une première sélection. Ici à Cannes, d'Ira Sachs, si je le fais à la française, Ira Sachs à Cannes, avec ce film Frankie et cette tête d'affiche, une française, Isabelle Huppert, bande-annonce.
There's people in the hotel, you know. They can take pictures.
That's okay. I'm very photogenic.
I'm a big fan.
I know you from TV, Archivos do Vaticano.
My mother thinks she knows everything. She has all these plans, you know.
She's in a hurry.
So you know?
I'm going to ask a favor. At least to pretend that you accept my fate. For the sake of this trip. For today. For the family.
Un casting mi-français, mi-américain réuni autour donc de la figure de Frankie Isabelle Huppert, une célèbre actrice gravement malade qui réunit autour d'elle, dans un petit village au Portugal, ses proches, sa famille. Mais pourquoi, Michel Simon?
Alors, c'est vrai que Ira Sachs, il est pour la première fois en compétition. C'est un metteur en scène indépendant new-yorkais qui a fait de très jolis films sur la vieillesse, en particulier de deux homosexuels, qui est un film. Mais c'est aussi un film très aimé, un cinéaste très aimé des Français parce qu'il ressemble, c'est un peu comme, d'une certaine façon, d'autres cinéastes de la côte Est qui ressemblent un peu à du cinéma français. C'est-à-dire, on pense à Romère en particulier. Et c'est très familier pour nous. Alors, on aime un peu les cousins d'Amérique qui nous ressemblent. C'est moins dérangeant que certains cinéastes américains. Mais je trouve que ce film plutôt agréable. On peut discuter de sa présence en compétition, mais je trouvais qu'il a un certain charme grâce essentiellement aux comédiens. Je trouve que, par exemple, Isabelle Huppert, depuis le film de Verhoeven, c'est ce qu'elle a fait de mieux. Elle parfois des côtés un peu artificiels dans certains rôles. Ici, je trouve par exemple Brendan Gleeson qui joue son mari, un homme ventripotent qui avait été le général de John Boorman et qui est un acteur formidable. Donc on prend du plaisir à voir la campagne portugaise, à voir Sintra, la ville, etc. Bon, un côté un peu touristique, mais je dirais pas que c'est un film important. C'est un film de détente dans un festival avec beaucoup de thèmes très sérieux.
Voilà, du plaisir ou pas, un film un peu carte postale, Paolo Mereghetti.
Oui, je suis d'accord. Michel a parlé de Romère. C'est un sous Romère. Il y a des choses amusantes. Il y a des... Isabelle Huppert est vraiment très très brave, très fort dans ses rôles de maladie, d'actrice qui ne veut pas confesser sa maladie et qui souffre. Mais le reste, les histoires de tout le reste de la famille qui s'entremêlent avec le drame de la mère, à la fin reste un peu comme ça. Il y a plutôt de beaux paysages. On connaît bien Sintra. On nous fait voir les choses plus importantes de Sintra, l'église, la fontaine où il y a qui fait les miracles, mais je n'ai pas aimé ce film-là.
Alors parlons d'un grand de chez vous qui sera à Cannes demain pour y présenter son nouveau film, Le Traître, Marco Bellocchio. On ne peut pas parler du film puisqu'il n'a pas encore été présenté dans la compétition, mais pourquoi sa présence ici est toute particulière, est importante aujourd'hui?
Pour les Italiens, c'est particulière en manière particulière parce que c'est la reconstruction del maxi processo de Palermo où il giudice Falcone a donné a mis en genou la mafia grâce à les confessions d'un traître, le monsieur du titre, qui est Bouchet, Tommaso Bouchet, interprété par Favino. Et la force du film, quand je parlais avec Bellocchio, qui m'a, avant de partir, il m'a dit qu'il voulait beaucoup raconter cette histoire comme une espèce de théâtre, un grand théâtre de la vie, où chacun joue son rôle. Le traître, ce qui ne veut pas parler, ce qui fait le clone, des choses comme ça. Et je m'attends beaucoup de ce film.
Merci beaucoup à vous, Paolo Mereghetti. Merci à vous, Michel Simon. On vous retrouve demain pour une dernière table ronde des critiques. Vous nous parlerez d'un film qui vous tient particulièrement à cœur. Surprise donc. Et merci à toute l'équipe technique de Radio France. Sandrine Malon ici à Cannes, Jordan Fuentes à Paris, Amélie Naïlig à la réalisation et à Henri Leblanc à la préparation, programmation de ces grandes tables cannoises. Rendez-vous demain.